Parlons sport, un sujet, un thème, une discussion.
La flamme a été allumée, les 32e Jeux Olympiques ont débuté. Seules quelques compétitions ont déjà eu lieu, mais ces Jeux resteront à tout jamais vus comme ceux de la pandémie de Covid-19. Je le rappelle, ils étaient initialement prévus du 24 juillet au 9 août 2020, mais ils se tiendront du 23 juillet au 8 août. D'ailleurs, chaque édition est marquée par une anecdote, une histoire, un fait, parfois sportif et parfois extra-sportif. Je vous propose donc de retourner dans le passé et de vous partager édition après édition une anecdote marquante de chaque Olympiade dans ce nouvel épisode de Parlons Sport.
Parlons Sport, un sujet, un thème, une discussion.
La première édition des Jeux Olympiques s'est déroulée en 1896 à Athènes. Et pour cette première édition, je ne pouvais pas parler d'un autre sujet que de la mise en place de ces Jeux Olympiques modernes. En réalité, l'idée a été proposée 4 ans auparavant, en 1892, lors du 5e anniversaire de l'USFSA, l'Union des sociétés françaises de sport athlétique. Il s'agissait d'une fédération omnisport, essentiellement parisienne, qui a encadré et encouragé la pratique sportive en mettant en place les tout premiers championnats de France des différents sports. Lors de cette réunion, dont la thématique était les exercices physiques dans le monde moderne, Pierre de Coubertin, qui était particulièrement impliqué dans le développement du sport scolaire, a proposé de rétablir les Jeux Olympiques avec une compétition sous la forme, et je le cite, de jeux à l'échelle du monde, de jeux ouverts à tous, à tous les pays, à toutes les races, à toutes les régions. Mais son projet n'évoque pas le moindre enthousiasme de la part des autres membres de la Réunion, et il le mettra de côté. Pour autant, Pierre de Coubertin y tient à son projet, et il le proposera à nouveau 2 ans plus tard, en 1894, à l'occasion du Congrès international du renouveau athlétique, centré autour de la thématique de l'amateurisme, où plus de 2000 invités en provenance de 13 pays sont présents. Cette fois-ci, il a réussi à convaincre son public et il a été décidé le 23 juin 1894 de mettre en place le rétablissement des Jeux Olympiques sur des bases conformes à la vie moderne avec la création des comités internationaux olympiques, anciennement appelés Comité international pour les Jeux Olympiques. 2 ans plus tard, c'est donc à Athènes qu'ont été organisés les tout premiers Jeux Olympiques modernes, dont la majorité des épreuves se sont déroulées au stade Panathénaïque, un stade antique entièrement rénové pour l'occasion, où 80 000 spectateurs ont pu assister aux épreuves. Mais vous vous souvenez, Pierre de Coubertin voulait des jeux ouverts à tous, à tous les pays, à toutes les races et à toutes les religions. Pourtant, sur cette édition, seuls les sportifs masculins, amateurs et de couleur de peau blanche pouvaient y participer, assez éloignés de l'idée de l'olympisme actuel. 4 ans plus tard, en 1900, c'est à Paris qu'a eu lieu cette 2e Olympiade. Pour autant, il s'agissait de la toute première où les femmes ont été admises, bien qu'elles n'aient pas concouru dans autant d'épreuves que leur homologue masculin. À cette époque encore, la pratique de certaines activités physiques était vue comme dangereuse pour elles, et cette interdiction était mise en place pour protéger leur féminité et leur rôle dans la fécondité, mais aussi pour respecter les coutumes en évitant les efforts violents et continus. Alors les 22 femmes sur les 997 athlètes ont participé aux épreuves d'équitation, de voile et de croquet en mixte, et elles ont uniquement participé aux épreuves de golf et de tennis en individuel. La tenniswoman britannique Charlotte Cooper fut la toute première championne olympique. Mais le combat vers l'égalité a été long et n'est toujours pas terminé aujourd'hui. Les épreuves d'athlétisme ne leur ont été ouvertes qu'en 1928, et il aura fallu attendre 2012 et l'ouverture de la boxe aux femmes pour qu'elles participent exactement aux mêmes épreuves que les hommes. Néanmoins, la part d'athlètes féminins a toujours été inférieure à la part d'athlètes masculins, bien qu'ils soient aujourd'hui quasiment à même niveau. La parité exacte ne sera atteinte qu'en 2024, 124 ans après leur toute première participation. La 3e Olympiade a eu lieu en 1904 à Saint-Louis aux États-Unis. Ce fut la toute première fois que les médailles d'or, d'argent et de bronze ont été remises aux 1er, 2e et 3e de chaque épreuve. En 1896, le champion olympique recevait une médaille en argent, une branche d'olive et un diplôme, et l'athlète arrivant à la seconde place recevait une médaille composée de bronze et de cuivre, ainsi qu'une branche de laurier et un diplôme. Et sur les Jeux de Paris, les 3 premiers athlètes des épreuves étaient récompensés, le premier recevait une médaille en argent doré, le second une médaille d'argent et le troisième une médaille de bronze. Ce n'est donc que depuis 1904 que les médailles sont aux métaux que l'on connaît aujourd'hui. Mais les médailles d'or ne resteront que très peu de temps en or massif. 8 ans plus tard, pour les Olympiades de 1912, le CIO a mis en place certaines règles sur la composition de ces médailles. Ainsi, ces médailles d'or sont depuis composées à minimum de 92,5% d'argent et recouvertes d'au moins 6 grammes d'or pur. L'édition suivante a eu lieu à Londres en 1908. Et pour la première fois de cet épisode, l'anecdote concerne une des épreuves, la finale du 400 mètres en athlétisme. À l'époque, les lignes au sol démarquant les couloirs n'étaient pas présentes. Certaines pistes comportaient certes des cordes afin de séparer les couloirs, mais ce n'était pas systématiquement le cas, et ce ne fut pas le cas sur ces Jeux Olympiques. Lors de la finale, 4 concurrents se sont affrontés sur la piste avec 3 Américains, John Carpenter, William Robbins et John Taylor, et un Britannique, Wyndham Halswell. L'Américain John Carpenter s'était imposé en 47 secondes, mais il a été accusé d'avoir empêché le Britannique Wyndham Halswell de le dépasser. Après délibération, il a été décidé de disqualifier John Carpenter et de reprogrammer la course 2 jours plus tard. En signe de soutien, ses 2 compatriotes, William Robbins et John Taylor, ont alors déclaré forfait. Wyndham Halswell a été le seul sur la ligne de départ de la deuxième finale du 400 mètres et a donc franchi la ligne d'arrivée en tête et s'est adjugé le titre olympique, l'un des plus controversés. En 1912, les Jeux Olympiques se sont déroulés à Stockholm en Suède. Et pour cette 5e édition, laissez-moi vous parler du Finlandais Hannes Kolehmainen. Il est reparti de Suède en étant en haut du tableau des médailles des athlètes, avec 3 titres olympiques et 1 médaille d'argent en athlétisme. Sa première médaille d'or, il l'a remportée sur le 10 000 mètres. 2 jours plus tard, c'est sur 5 000 qu'il remporta sa seconde médaille d'or avec un chrono final de 14 minutes et 36 secondes. Il s'agissait non seulement d'un nouveau record du monde, mais il est surtout devenu le premier athlète à descendre en dessous des 15 minutes sur cette distance. Quelques jours plus tard, il décrocha sa 3e médaille d'or sur l'épreuve du 3000 mètres du cross-country, avant de récupérer quelques heures plus tard sa médaille d'argent sur le cross-country par équipe. Il aurait même pu remporter une 5e médaille sur le 3000 mètres par équipe, mais la Finlande a déclaré forfait à cause de la programmation de la finale, alors qu'ils avaient battu le record du monde lors des séries. Hannes Kolehmainen a donc survolé cette 5e édition. 4 ans plus tard, en 1916, les Jeux auraient dû avoir lieu à Berlin. Malheureusement, les conflits de la Première Guerre mondiale ont eu raison de cette édition. Au début, tout le monde, et notamment les Allemands, pensaient que la guerre allait être rapide. Débutée en 1914, les tensions ont perduré dans le temps, et bien qu'il y ait eu des propositions de transfert vers les États-Unis ainsi que vers la Scandinavie, ils furent annulés. Pour autant, il reste dénommé 6e édition des Jeux Olympiques modernes, car comme l'a indiqué Pierre de Coubertin dans ses mémoires publiées en 1931, une Olympiade peut n'être pas célébrée, son chiffre demeure. C'est la tradition antique. La 7e édition des Jeux Olympiques en 1920 a quant à elle bien eu lieu et c'est Anvers en Belgique qui a été le pays hôte. La grandeur de cette Olympiade n'a pas été marquée par un athlète, une épreuve ou un événement particulier. C'est plutôt le fait que l'organisation ait eu lieu qui a été remarquable. Seulement 2 ans après l'armistice, alors que l'Europe est meurtrie, que les villes sont détruites et que la population a faim, Anvers a réussi à réunir plus de 2600 athlètes en provenance de 29 pays différents, un beau signe de paix. Néanmoins, tous les pays n'étaient pas présents. Les empires centraux, qui étaient l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie, la Bulgarie et l'Empire ottoman, n'ont pas été invités. Officiellement, car leur comité national olympique n'était pas considéré comme actif, mais officieusement, car ils étaient considérés comme les pays responsables de la Première Guerre mondiale. Un autre athlète présent sur ces Jeux olympiques a marqué la paix dans le monde, mais bien des années plus tard. Sacré vice-champion olympique du 1500 mètres à Anvers, le Britannique Philip Noel Baker a reçu le prix Nobel de la paix en 1959 pour son travail de longue date dans la paix et le désarmement international au sein des Nations Unies et de l'UNESCO. Retour à la compétition pour les Jeux Olympiques de 1924. 20 ans après, et pour la dernière Olympiade de Pierre de Coubertin à la tête du Comité international olympique, c'est une nouvelle fois en France qu'ont été organisés ces Jeux Olympiques. À Paris. Le nageur Johnny Weissmuller a été l'un des acteurs phares de cette 8e Olympiade en remportant 4 médailles. D'ailleurs, son nom ne vous est sûrement pas inconnu, car c'est lui qui a incarné Tarzan dans 12 des films du personnage à partir de 1932. Mais en 1924, alors qu'il n'avait que 19 ans, c'est dans la piscine qu'il s'est illustré. Parmi ses 4 médailles, il en a remporté 3 en or, sur le 100 mètres nage libre, sur le 400 mètres nage libre et sur le relais 4 x 200 mètres nage libre. Son autre médaille, il l'a également remportée dans la piscine, mais pas en natation sportive. Il s'agissait de la médaille de bronze en water-polo. 4 années plus tard, en 1928, c'est à Amsterdam, aux Pays-Bas, qu'ont eu lieu les 9e Olympiades modernes. Et pour la première fois, la flamme olympique a été allumée et l'est restée pendant toute la durée des Jeux Olympiques. C'est aujourd'hui un des symboles forts de l'olympisme et fait partie intégrante de la cérémonie d'ouverture. D'ailleurs, cette année-là, la délégation grecque est rentrée en tête du défilé des athlètes de la cérémonie d'ouverture et c'est la délégation néerlandaise qui est rentrée en dernière. Depuis, l'ordre est resté inchangé. La Grèce, pays de l'olympisme, rentre en tête, suivie de l'ensemble des pays qui défilent dans l'ordre alphabétique, et c'est la nation hôte qui ferme la marche. Durant la cérémonie d'ouverture, on retrouve également d'autres symboles forts avec l'hymne olympique, ainsi que le serment olympique prononcé par un athlète au nom de l'ensemble des participants, des entraîneurs et des arbitres, afin de faire foi du respect des règles de l'olympisme. L'Olympiade suivante, en 1932, s'est tenue à Los Angeles aux États-Unis. Et alors qu'ils n'avaient pas encore débuté, ils ont été cruels pour Paavo Nurmi. Cet athlète finlandais, spécialiste des épreuves de demi-fond, dominait les courses. En 1920 à Anvers, il remporta le titre sur 10 000 mètres, sur le cross et sur le cross par équipe, et la médaille d'argent sur 5 000 mètres. 4 ans plus tard, en 1924 à Paris, c'est 5 titres olympiques qu'il décrocha, sur 1500, 3000 et 5000 mètres, et une nouvelle fois en cross et en cross par équipe. Enfin, en 1928, il remporta l'or sur 10 000 mètres, ainsi que l'argent sur 3 000 mètres steeple et sur 5 000 mètres. Et alors qu'il se rendait à Los Angeles en 1932 pour prendre le départ du marathon, il a été suspendu à vie pour professionnalisme à quelques jours du début des Jeux. En effet, en 1929, il a effectué une tournée aux États-Unis où il était payé pour participer à des meetings et battre des records. D'ailleurs, sur une de ses courses, il n'avait été payé qu'à 75% et s'était donc arrêté aux trois quarts de la course. Il n'a donc jamais participé à un marathon sur les Jeux Olympiques, la seule médaille qu'il manque à son palmarès. En 1936, c'est à Berlin qu'ils ont eu lieu. Surnommés les Jeux Olympiques de la honte, Adolf Hitler, alors à la tête du pays depuis 2 ans, en a profité pour faire de la propagande du nazisme et la promotion de la race aryenne. Au programme, du racisme, de la xénophobie et de l'antisémitisme. Au tableau des médailles, l'Allemagne a terminé en tête avec 89 médailles, dont 33 en or. De son côté, Hitler s'est montré pacifique et bienveillant aux yeux du reste de l'Europe. Les pancartes antisémites avaient été retirées des rues, les lois anti-homosexuelles n'ont pas été appliquées aux spectateurs, et l'Allemagne proposait des offres de voyage afin d'attirer des touristes. Mais les plans d'Adolf Hitler ont été perturbés par un athlète, Jesse Owens, un Afro-Américain qui remporta le titre sur 100 et 200 mètres, avec ses coéquipiers sur le 4x100 mètres, et même en saut en longueur, où il s'imposa devant l'Allemand Lutz Long, pourtant favori au titre olympique. Ce jour-là, Adolf Hitler avait un emploi du temps chargé et la rencontre avec Jesse Owens n'avait pas pu se faire. Pour autant, le chancelier allemand n'a pas été insensible à cet exploit. Comme Jesse Owens le raconte dans ses mémoires, « Je suis passé devant lui, je lui ai fait un petit signe de la main et il a répondu à mon signe. » En revanche, un qui n'a pas réagi à sa victoire, c'est son propre président Franklin Delano Roosevelt qui ne l'a ni invité à la Maison-Blanche, ni téléphoné, ni envoyé de télégramme. La faute à la ségrégation. Les Jeux Olympiques de 1940 avaient dans un premier temps été attribués à Tokyo. Malheureusement, l'invasion de la Chine par le Japon en août 1937 a engendré le début d'une guerre sino-japonaise et a forcé le Japon à renoncer à la réception des Jeux Olympiques en 1938. Les Jeux Olympiques de 1940 ont alors été confiés à la Finlande qui aurait dû les organiser à Helsinki. Mais en 1939, la Finlande renonça à son tour à la réception des Jeux Olympiques et cette 12e édition fut annulée à cause des tensions qui régnaient dans le monde à cette époque. 4 ans plus tard, en 1944, c'est à Londres que devaient se tenir les 13e Olympiades modernes. Mais une fois de plus, la Seconde Guerre mondiale eut raison des Jeux Olympiques et ils furent à leur tour annulés. En 1948, après avoir été annulés sur 2 éditions, c'est enfin le retour des Jeux Olympiques. Mais à cette époque, le monde, et plus particulier l'Europe, était au plus bas. Les villes étaient détruites, les caisses de l'État étaient vides, et les infrastructures des Jeux Olympiques étaient loin d'être la priorité économique. Londres, qui s'était vu attribuer les Jeux Olympiques de 1944 et qui a accueilli ces Jeux Olympiques de 1948, a donc essayé de débourser le moins d'argent possible. Elle a utilisé des structures sportives déjà existantes, comme la pelouse du stade de foot de Wembley, transformée en piste d'athlétisme, et les athlètes ont été mis dans des logements déjà existants. Dans un premier temps, le comité d'organisation avait pensé à les loger chez l'habitant, mais il s'est vite rendu compte que ce n'était pas possible. Alors il s'est penché sur les camps de prisonniers, mais doutant de l'image que cela renverrait, il a finalement préféré les loger dans des casernes militaires et dans les dortoirs des écoles. Au niveau de la nourriture, de nombreuses délégations y sont allées avec la leur afin de se préparer leur propre repas. Les Américains et les Argentins sont allés à Londres avec des kilogrammes de viande, les Italiens avec des kilogrammes de pâtes, et les Français ont même apporté leur bouteille de vin. Au total, ces Jeux Olympiques ont coûté 732 000 pounds, mais ont rapporté 762 000, soit tout de même 30 000 pounds de bénéfices. Les Olympiades suivantes, celles de 1952, ont eu lieu à Helsinki. Les tensions entre les pays étaient à nouveau à la hausse, notamment entre les États-Unis et l'URSS, qui voulaient chacun montrer sa supériorité. Mais bien que deux villages olympiques aient été construits, un pour le bloc de l'Est et un autre pour les autres délégations, les affrontements n'ont eu lieu que sur le terrain. À la fin des Olympiades, les États-Unis ont terminé en tête du tableau des médailles devant l'URSS, mais ce ne fut pas le cas sur les deux suivantes où l'URSS a terminé devant les Américains, avant de se faire repasser devant en 1960. Cette lutte pour la première place s'est poursuivie jusqu'aux Jeux Olympiques de 1988, achevée par la dissolution de l'URSS en 1991. Pendant presque 50 ans, les deux pays se sont livrés de belles batailles sur les terrains, comme la finale de basket en 1972, remportée 51 à 50 par l'URSS à la dernière seconde, après une controverse sur un temps mort et sur le temps de jeu restant. En 1956, pour les 16e Jeux Olympiques modernes, les athlètes se sont tous envolés pour rejoindre Melbourne en Australie. Enfin, pas tous. Pour les premiers Jeux Olympiques organisés dans l'hémisphère sud, les épreuves d'équitation n'ont pas pu s'y dérouler à cause d'une loi australienne obligeant une quarantaine de 6 mois pour les animaux arrivant sur le territoire. Lors de la candidature, le comité d'organisation avait bien évidemment omis cette information afin qu'elle ne lui soit pas défavorable. Le CIO avait alors été forcé de mettre en place des jeux équestres qui se sont déroulés en juin à Stockholm, alors que les autres épreuves ont eu lieu en décembre en Australie. Pour la première fois, la charte olympique venait d'être violée en transgressant le principe d'unité de lieu. 4 ans plus tard, en 1960, les Jeux Olympiques ont été organisés à Rome, en Italie. Et pour la première fois, ils ont été retransmis en direct à la télévision. Les Jeux Olympiques sont alors rentrés dans une nouvelle ère, chaque pays voulant montrer sa domination au travers des victoires. Sur cette Olympiade, la France termina loin au tableau des médailles. Une 25e place avec seulement 5 médailles, 2 d'argent et 3 de bronze, aucun titre. Pour Charles de Gaulle, président en place à l'époque, c'était une humiliation. Alors qu'il avait nommé Maurice Herzog haut-commissaire à la jeunesse et au sport 2 ans auparavant, il lui a alors donné les pleins pouvoirs en matière de politique sportive. Maurice Herzog, premier alpiniste à avoir gravi l'Annapurna, a donc mis en place le système pyramidal. Avoir une masse importante à la base et voir qui atteint l'élite afin de l'accompagner dans la victoire. Pour cela, il a instauré 3 lois programmes d'équipement sportif et socio-éducatif visant à augmenter le nombre de structures. Et en 15 ans, ce sont 4000 gymnases, 8000 terrains de sport et 1500 piscines qui ont été construits. Au sommet de la pyramide, ce sont 2 grands établissements qui ont vu le jour, l'INSEP, l'Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance, ainsi que le CNEA, le Centre National d'Entraînement en Altitude. Grâce à cette politique, la France est progressivement remontée au tableau des médailles et n'a plus jamais quitté le top 10 depuis les Jeux de 1988. Les Jeux Olympiques de 1964 ont eu lieu à Tokyo au Japon, la toute première édition en Asie. Cette 18e Olympiade a surtout retenu l'histoire d'amour entre Robbie Brightwell et Ann Paker, tous deux athlètes britanniques spécialistes du 400 mètres et favoris au titre olympique. Mais cette année-là, les deux échouèrent. Ann Paker arriva seconde, battue par l'Australienne Betty Cuthbert, et son fiancé Robbie Brightwell termina 4e, ne remportant donc même pas de médaille. Également engagée sur le 800 mètres, mais sans avoir jamais réalisé de performance, Ann Paker avait décidé de ne pas prendre le départ, préférant passer sa journée à faire du shopping. Mais la déception de son fiancé était telle qu'elle changea d'avis et s'aligna au départ. Elle se retrouva dans les dernières positions dès les premiers mètres, mais remonta petit à petit chacune de ses concurrentes pour finalement s'imposer avec plus de 70 mètres d'avance et un nouveau record du monde. En 1968, à Mexico, au Mexique, l'athlétisme a une nouvelle fois marqué les Jeux Olympiques, cette fois-ci avec le 200 mètres masculin. En finale, Tommy Smith remporta la course en 1983 devant l'Australien Peter Norman et un autre Américain, John Carlos. Lors de la course, hormis l'établissement d'un nouveau record du monde, rien n'a été invraisemblable. En revanche, la cérémonie protocolaire et le podium resteront à tout jamais marqués dans l'histoire de l'olympisme. Lors de l'hymne américain, John Carlos et Tommy Smith étaient en chaussettes, le regard vers le bas, le poing levé muni d'un gant noir et la veste ornée d'un macaron avec l'inscription « Projet olympique pour les droits de l'homme ». En effet, à cette époque, la ségrégation était forte aux États-Unis, notamment marquée par l'assassinat de Martin Luther King quelques mois plus tôt. La communauté afro-américaine avait annoncé qu'elle ne boycotterait pas les Jeux Olympiques, mais qu'ils allaient tout de même montrer leur mécontentement avec des signes de protestation. Mais pour ce geste, les deux Américains ont été condamnés de la plus radicale des sanctions, une exclusion à vie. Quant au troisième homme sur le podium, l'Australien Peter Norman, lui aussi a été exclu des Jeux Olympiques, sanctionné par sa propre fédération. En effet, il a soutenu les deux Américains, lui aussi portait le macaron au projet olympique pour les droits de l'homme, et Tommy Smith ayant oublié sa paire de gants, c'est Peter Norman qui eut l'idée du partage. Pour cela, les deux Américains, Tommy Smith et John Carlos, lui ont été reconnaissants, et à la mort de l'Australien en 2006, ils ont tous les deux porté son cercueil. 4 ans plus tard, en 1972, les Jeux Olympiques ont eu lieu à Munich en Allemagne. Et une fois de plus, la politique et les conflits extérieurs ont eu un impact sur les Olympiades. Le 5 septembre, il n'est que 4h30 du matin, quand l'hôtel où logent les athlètes israéliens est attaqué par 8 membres du groupe terroriste palestinien Septembre Noir. Leur action fait suite de la guerre de 6 jours, durant laquelle les Israéliens ont récupéré une partie du territoire palestinien. Lors de l'attaque, 2 athlètes ont été tués, et 9 sportifs et membres de la délégation ont été pris en otage. Après 20 heures de négociations, la prise d'otage s'est conclue par la mort de l'ensemble des détenus et de 5 des 8 terroristes. Les 3 autres ont été capturés. Le lendemain, une cérémonie commémorative a été réalisée en leur honneur et la compétition reprit le 7 septembre, 34 heures après le début de la prise d'otage. 1976, Jeux Olympiques de Montréal au Canada. Et malheureusement, cette 21e Olympiade a marqué le début des boycotts par un grand nombre de nations. En 1976, 22 pays africains ont décidé de ne pas y participer afin de manifester leur colère face à la présence de la Nouvelle-Zélande. Elle lui reprochait d'avoir envoyé son équipe de rugby à 15 faire une tournée en Afrique du Sud alors que les Sud-Africains étaient exclus des Jeux Olympiques depuis 12 ans en raison du régime de l'apartheid. Il n'y a donc eu que 94 nations qui se sont rendues au Canada. 4 ans plus tard, 1980, les Jeux Olympiques ont eu lieu à Moscou, qui faisait à l'époque partie de l'URSS. Et cette fois-ci, ce sont 51 pays qui ont décidé de boycotter les 22e Jeux Olympiques modernes en raison de la guerre froide. Parmi eux, les États-Unis bien évidemment, mais aussi ses alliés comme le Japon, le Canada ou encore la Corée du Sud. Mais sur les Olympiades suivantes qui ont eu lieu à Los Angeles aux États-Unis, les Soviétiques ont eu leur vengeance en boycottant à leur tour les Olympiades, accompagnés par la Hongrie, le Cuba ou encore la Corée du Nord. En tout, 16 pays n'ont pas fait le déplacement. Une fois de plus, la politique est rentrée dans les Jeux Olympiques. En 1984, hormis ce boycott, un autre événement a marqué les Jeux Olympiques de Los Angeles. Pour la première fois, une athlète paralympique a participé aux Jeux Olympiques. Bien qu'ils aient leur propre jeu depuis 1960, les athlètes en situation de handicap sont autorisés à concourir auprès des valides s'ils réalisent les minima requis et que les adaptations nécessaires ne leur soient pas un avantage. En revanche, ce n'était pas la première fois qu'une personne atteinte d'un handicap participait aux Jeux Olympiques. Par exemple, en 1904, le gymnaste George Hazer avait remporté 6 médailles, dont 3 en or sur les Jeux Olympiques de St. Louis, et Lisa Hartel, une cavalière de dressage danoise paralysée en dessous des genoux, avait été sacrée vice-championne olympique en 1952 et en 1956. Pour autant, c'est Neroli Fairhall, une archère néo-zélandaise paraplégique, qui est devenue la première à concourir à la fois aux Jeux Paralympiques et aux Jeux Olympiques. Depuis, d'autres ont réussi à le faire, comme l'athlète non-voyante américaine Marla Runyan, sacrée championne paralympique sur 100, 200 et 400 mètres, ainsi qu'en saut en hauteur en 1992, puis sur l'heptathlon en 1996, et qui a participé à la finale du 800 mètres aux Jeux Olympiques de 2000. Plus récemment, le sprinteur sud-africain Oscar Pistorius, sextuple champion paralympique sur 100, 200 et 400 mètres entre 2004 et 2012, avait également couru aux Jeux Olympiques de 2012. En 1988, les Jeux Olympiques ont eu lieu à Séoul en Corée du Sud. Et bien que les tests antidopage aient été mis en place aux Jeux de Mexico en 1968, ce sont sur cette 24e édition qu'a eu lieu le tout premier gros scandale. En finale du 100 mètres masculin, le Canadien Ben Johnson s'imposa en 9 secondes 76 centièmes. Il venait non seulement de battre le record du monde, mais il venait surtout de battre l'Américain Carl Lewis qui s'était imposé 4 ans plus tôt sur 100, 200 et 4 fois 100 mètres, ainsi que sur l'épreuve de saut en longueur. Dans une interview réalisée quelques minutes après sa victoire, Ben Johnson a annoncé que pour lui, la médaille d'or avait plus de valeur car personne ne pouvait la lui retirer. Et pourtant, c'est ce que fit le CIO. 2 jours plus tard, les résultats du test antidopage ont révélé que ses urines contenaient des stéroïdes anabolisants. Il a donc immédiatement été inculpé de sanctions, sa médaille d'or lui a été reprise, son record invalidé et il a été suspendu de 2 ans de toute compétition par la Fédération internationale d'athlétisme. Tous les médias en ont parlé, il a fait la une de la presque totalité des journaux, et c'est aujourd'hui encore l'un des plus gros scandales de l'histoire de l'athlétisme. Ben Johnson a tout de même tenté de revenir après sa suspension, mais il n'a pas réussi à franchir le cap des demi-finales sur les Jeux Olympiques de 1992, et il a été une nouvelle fois contrôlé positif aux stéroïdes l'année suivante, ce qui lui a coûté une éradication à vie par l'I2AF. Ces Jeux de 1992, ils ont eu lieu à Barcelone en Espagne, et ils ont marqué un tournant important de l'histoire de l'olympisme. 12 ans auparavant, en 1980, Juan Antonio Samaranch avait été élu le nouveau président du CIO. À partir de l'année suivante, il a alors instauré diverses mesures afin de moderniser les Jeux Olympiques en mettant notamment un terme au strict amateurisme des athlètes, pourtant un point phare de la charte olympique mis en place par Pierre de Coubertin et les autres membres du CIO en 1894. Dans un premier temps, en 1984, le tournoi de football a été ouvert aux joueurs professionnels à la condition qu'ils n'aient pas encore participé à la Coupe du Monde. En 1988, ce sont les tennismans professionnels qui ont été autorisés à participer, mais 1992 et Barcelone sera tout jamais marqué par la fin de l'amateurisme avec l'arrivée des joueurs de la NBA dans l'équipe américaine de basket. Cette équipe américaine a été surnommée la Dream Team et elle est aujourd'hui encore considérée comme la plus grande équipe de basket de tous les temps. Composée des meilleurs joueurs du championnat américain tels que Michael Jordan ou encore Magic Johnson, elle a survolé la compétition en inscrivant en moyenne 117,3 points par match et en les remportant tous avec en moyenne 44 points d'écart. Par la suite, le nombre de sportifs professionnels a été de plus en plus grand à chaque Olympiade et aujourd'hui, les Jeux Olympiques représentent pour beaucoup l'objectif majeur de leur carrière. En 1996, pour le centenaire des Jeux Olympiques, la 26e édition a eu lieu à Atlanta aux États-Unis. Mais le choix de la ville haute avait fait polémique. Lors de l'élection, 6 villes s'étaient portées candidates. Belgrade, Manchester, Melbourne, Toronto, Athènes et Atlanta. Après 5 tours, éliminant une à une chacune des villes, le vote final opposa Atlanta à Athènes. 100 ans après avoir organisé les tout premiers Jeux Olympiques modernes, il paraissait logique que la capitale grecque les organise. Mais ce ne fut pas le choix du Comité international olympique. Il a voté à 60% pour Atlanta, qui avait effectué une candidature autour de Coca-Cola. Le CIO venait de favoriser le financier au symbolique. 4 ans plus tard, en 2000, ils se sont déroulés à Sydney. Et pour ce retour des Jeux Olympiques en Australie, toutes les épreuves ont eu lieu là-bas, même les épreuves d'équitation. Cette fois-ci, les mesures de quarantaine imposées aux animaux avaient été allégées par les autorités sanitaires, avec seulement 4 semaines d'isolement, composées de 2 semaines avant de partir, puis 2 nouvelles semaines à leur arrivée en Australie. Mais le transport des chevaux a été plus complexe que cela. 3 vétérinaires ont effectué des analyses au préalable afin de s'assurer de la bonne réaction des animaux face à un vol de 30 heures. Et ils ont calculé le temps de récupération qu'il fallait leur laisser. Une fois sur place, les chevaux ayant fait le déplacement ont été mis dans des boxes situées à plus de 100 mètres des autres chevaux. Et lorsque les cavaliers s'approchaient de leur monture, ils devaient mettre des vêtements dédiés qui n'avaient pas le droit de sortir de cette bulle. Grâce à ces restrictions, le temps de quarantaine a pu être diminué, tout en éliminant la crainte de la propagation d'une maladie par les autorités locales. En 2004, les Jeux Olympiques ont eu lieu à Athènes. Cette 28e édition a été marquée par le début de la moisson des médailles de Michael Phelps, âgé de seulement 19 ans à l'époque. Le nageur américain s'était rendu à Sydney 4 ans auparavant, mais il n'avait terminé que 5e du 200 mètres papillon. Pendant 4 ans, il est monté en puissance en remportant de nombreux titres de champion du monde et en établissant de nouveaux records du monde. En se rendant à Athènes, Michael Phelps n'avait pas que simple ambition de devenir champion olympique, il voulait surtout battre ou au moins égaliser le record de titres olympiques remporté sur une même édition, détenu par un autre nageur américain, Mike Spitz, avec 7 victoires aux Jeux Olympiques de Munich en 1972. Son sponsor Speedo lui avait même promis une prime $1 million si jamais il le réussissait. Michael Phelps s'aligna sur 8 courses, il remporta une médaille d'or sur chacune d'entre elles, mais malheureusement, pas dans le bon métal. 6 d'or et 2 de bronze. 4 ans plus tard, son ambition était toujours la même. Speedo s'était une nouvelle fois engagé à lui verser $1 million en cas de réussite. Il s'aligna sur les 8 mêmes courses. Et cette fois-ci, il devint champion olympique sur chacune d'entre elles et même détenteur du nouveau record du monde sur 7 d'entre elles. Michael Phelps a ensuite disputé 2 autres Olympiades où il remporta de nouveaux titres et de nouvelles médailles d'or afin de se constituer un palmarès hors du commun. 28 médailles olympiques avec 23 en or, 3 en argent et 2 en bronze. En 2008, les Jeux Olympiques ont eu lieu à Pékin en Chine et je vais une nouvelle fois vous parler de médailles. alors que depuis 1952 et les Jeux Olympiques d'Helsinki, les États-Unis et l'URSS, ensuite devenus la Russie, se disputent la première place du tableau des médailles, une nouvelle nation est venue bouleverser le duel, le pays hôte, la Chine, qui s'est hissée tout en haut du tableau en remportant 100 médailles, dont pas moins de 51 en or. C'est notamment en gymnastique que la Chine a été performante en décrochant 11 des 18 titres disponibles. Mais des soupçons de tricherie planent au-dessus de cette équipe de gymnastique chinoise en ce qui concerne la véracité de l'âge de ses athlètes. En effet, l'âge minimum requis afin de participer aux épreuves de gymnastique féminine est de 16 ans. Or, Ekek Xin, qui avait remporté l'or aux barres asymétriques et au concours général par équipe, aurait été âgée de 14 ans à l'époque. Déjà à Sydney 8 ans plus tôt, une médaille de bronze avait été retirée à une gymnaste chinoise pour les mêmes raisons. Mais cette fois-ci, l'enquête n'a rien révélé de normal. Les documents officiels ont confirmé que Ekek Xin avait bien l'âge minimum requis, bien que le soupçon de la falsification de ces documents n'ait pas été levé. Aujourd'hui, Ekek Xin est toujours double championne olympique, mais les doutes persistent. En 2012, 4 ans plus tard, les Jeux Olympiques se sont déroulés à Londres. Et une nouvelle fois, des soupçons de tricherie ont été dévoilés. Cette fois-ci pour du favoritisme. En effet, à plusieurs reprises, les athlètes britanniques ont bénéficié d'avantages qui leur ont permis de remporter des médailles. Cela a notamment été le cas en cyclisme sur piste. Lors de qualification de l'épreuve de vitesse par équipe, quelques mètres à peine après le départ, Philip Indes a chuté, et comme le veut le règlement, la course a été recommencée. L'équipe britannique la remporta, ainsi que les suivantes, et a été sacré championne olympique. Après avoir reçu sa médaille d'or, Philip Indes a néanmoins avoué avoir chuté volontairement, avant de revenir quelques heures plus tard sur ses propos en conférence de presse. En effet, quelques jours auparavant, 4 paires de badistes asiatiques ont été exclus des Jeux Olympiques pour ne pas avoir respecté l'esprit olympique en tentant délibérément de perdre pour bénéficier d'adversaires plus faciles en quart de finale. Pour une même action, les deux dossiers ont eu un aboutissement différent. D'un côté, les athlètes ont été disqualifiés, et dans l'autre, il a fait la une des journaux en étant élevé au rang de héros. En 2016, les Jeux Olympiques se sont déroulés à Rio de Janeiro au Brésil. Il aura donc fallu attendre la 31e édition pour qu'un pays d'Amérique du Sud soit la ville hôte. Mais ce choix n'a pas été sans scandale. Dans un premier temps, une enquête débutée en 2017 a révélé que la capitale brésilienne avait mis en place un système de corruption afin de recevoir l'événement. Puis en 2019, Sergio Cabral, gouverneur de Rio lors de la candidature, a lui-même avoué avoir payé des membres du CIO. Mais ça n'a pas été le seul scandale de l'organisation de ces Jeux Olympiques. Afin de construire les infrastructures, de nombreuses favelas où vivent les plus démunis du pays ont été détruites et les habitants ont été relogés, certains à 70 km de leur ancien logement. Les Brésiliens avaient donc été nombreux à manifester contre la réception des Jeux Olympiques afin d'exprimer leur mécontentement face à l'investissement financier de l'État dans l'organisation des grands événements sportifs, au lieu d'en faire bénéficier les services publics et la population. Et ils avaient sûrement raison, puisqu'après les Jeux Olympiques, la majorité des installations ont été laissées à l'abandon, faute de moyens de rénovation et d'entretien. En 2020, les Jeux Olympiques auraient dû avoir lieu à Tokyo au Japon, mais ils ont été reportés d'un an à cause de la pandémie de Covid-19 et se tiendront du 23 juillet au 8 août. Les Jeux Olympiques ont donc à peine débuté, mais cette reprogrammation et les conditions sanitaires sont déjà l'événement marquant de cette 32e édition. Un autre encore plus phénoménal réussira-t-il à le détrôner? C'est ce que nous verrons dans les prochains jours. Voilà, c'est tout pour cet épisode de Parlons Sport. Merci à ceux qui sont arrivés jusqu'au bout et qui ont écouté en intégralité cet épisode sur les anecdotes aux différentes éditions des Jeux Olympiques. Si l'épisode vous a plu et que vous avez appris des choses, n'hésitez pas à le partager, à me dire ce que vous en avez pensé et à mettre un commentaire si vous êtes sur Apple Podcast. C'est ce qui me permet de progresser et de me rendre visible. Si jamais vous voulez en connaître davantage sur chacune de ces éditions, je vous recommande la série qu'a fait Mathieu Rivière, où sur des épisodes d'une dizaine de minutes, il revient sur les événements de chaque Olympiade. Le nom de son podcast, c'est « Le sport, c'est bien ». Vous trouverez le lien dans les notes de l'épisode. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, @sport.kylian-tanguy. J'y publie des posts quotidiens sur le sport, je partage ma passion et j'entre en contact avec vous. N'hésitez pas à me dire laquelle des anecdotes vous a le plus marqué, je prendrai un plaisir à en discuter avec vous. Merci à tous et à bientôt sur Sport Podcast.